Vous écoutez la première chaîne de Radio-Canada au 95.1.
Connaissez-vous le FOMO? C'est l'acronyme pour l'expression anglaise « fear of missing out », c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Il s'agit d'un phénomène qu'on observe de plus en plus chez les utilisateurs d'Internet, des réseaux sociaux et des téléphones intelligents. On reste accroché à nos appareils de peur de rater la dernière nouvelle ou le plus récent tweet. C'est une forme de cyberdépendance, pourrait-on dire, qui finit bien souvent par affecter le sommeil. Pour en discuter, je joins au téléphone une des sommités mondiales dans l'étude de la cyberdépendance. C'est lui qui a identifié le premier cas de cyberdépendance en 1996. Il s'agit du docteur Jean-Charles Nayebi, qui est de passage à Québec. Bonsoir, docteur Nayebi.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bien, et vous-même?
Je vais très bien. Alors, c'est bien vrai, vous avez identifié le premier cas de cyberdépendance en 1996?
Paraît-il que dans le monde francophone, ça soit effectivement le cas. Il y a Madame Jung du côté anglo-saxon qui était plus avancée dans ses travaux, qui a évoqué la cyberdépendance lors d'un congrès. Mais moi, en termes de diagnostic français, c'était en 96 mon premier diagnostic, effectivement.
Et c'était un enfant de 7 ans?
C'était un enfant de 7 ans. Je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent de cette époque-là. Tous, il y avait des jouets qu'on appelait les Tamagotchi. C'était des petits boîtiers avec des petites bêtes à nourrir, à cajoler. Sinon, ces bêtes-là mouraient.
Oui, et c'était effectivement...
Et l'enfant était vraiment prise en otage, effectivement, par ces bestioles électroniques que ses parents lui avaient offertes en 6 exemplaires. Et on était loin de cette démocratisation d'Internet et autres, mais c'était un premier cas de cyberdépendance. Effectivement, cet enfant-là était effectivement dépendant à une machine.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de donner de l'ampleur du phénomène de la cyberdépendance? Est-ce qu'il y a des chiffres?
Oui, il y a des chiffres, mais les chiffres varient beaucoup en fonction des pays, en fonction des cultures et en fonction des méthodologies employées dans les études. Ce que nous savons, c'est que les chiffres qui nous parviennent de la part de l'Asie, notamment la Chine et la Corée, sont des chiffres très forts. Ils évoquent des cyberdépendances, notamment parmi les jeunes, qui avoisinent les 15% de la population. En Europe, on est plus modéré dans les méthodologies et dans les conclusions en tirées, mais il y a cette affaire culturelle aussi qui fait que peut-être on joue moins et on chatte moins. Moi-même, mes études m'ont amené vers une population de 6 à 8% de la population usagée d'Internet naturellement. Vous avez des chiffres un petit peu plus faibles encore du côté de l'Allemagne qui parle de 5% des usagers. Mais il est vrai que les affaires méthodologiques et culturelles font que pour l'instant on manque de cohérence en termes d'épidémiologie mondiale.
Est-ce que nous sommes tous des candidats potentiels à la cyberdépendance?
Non, heureusement non, parce que qu'il s'agisse de la cyberdépendance ou qu'il s'agisse de dépendance à la drogue dure ou d'alcool, il se trouve qu'à la naissance, nous n'avons pas la même prédisposition à devenir addict. Les études montrent ça très bien. La prédisposition à devenir dépendant, heureusement ou malheureusement, on ne saura pas le dire, mais c'est différent d'une personne à l'autre. Nous avons tous des amis dans les groupes fréquentés par les uns et les autres, et on voit bien que ne serait-ce que l'effet de boire 2-3 bières sur un ami est différent d'un autre.
Mais est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus à risque? Le premier cas que vous avez identifié, vous disiez en 1996, c'était un enfant. Est-ce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes?
Naturellement que les enfants et les adolescents sont plus vulnérables que les adultes, et pour une raison très simple et empirique, c'est que dans l'addiction, si vous voulez, la notion de jugement joue beaucoup. Une perte de contrôle qui fait suite à une addiction a besoin de jugement pour se modérer. Or, précisément, les enfants et les adolescents n'ont pas la maturité nécessaire pour exercer leur jugement. Donc, les jeunes personnes sont particulièrement fragiles à ce type de dépendance.
Est-ce que, parce que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, vous avez identifié le premier cas en 1996, mais est-ce que la cyberdépendance est amplifiée par les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, les jeux en ligne?
Oui, considérablement. Parce que si le web, avant le web 2.0, comme on appelle, c'était entraînant en termes de jeux, le web 2.0, le web moderne avec les réseaux sociaux, est venu proposer des activités participatives qui font qu'en définitive, la clientèle s'est largement répandue du côté des chats, du côté des usages, pour ne pas nommer par exemple Facebook, suivi de conversations ou fabrication de sites internet et de blogs et autres. Les activités étant augmentées, naturellement, les usagers sont augmentés, mais ça suppose également que les cas d'exposition et donc des risques de dépendance augmentent.
Mais les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, ça, ce sont des phénomènes assez récents. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de voir une accélération des cas de cyberdépendance dans les prochaines années?
Écoutez, cette accélération-là a lieu déjà depuis quelques années et malheureusement, le mouvement se poursuit. J'ai été interviewé récemment à la mort de Steve Jobs et on me demandait pourquoi il y avait une telle émotion s'était dégagée de son décès. Et j'avais une phrase simple qui avait été reprise. J'avais dit que c'était l'inventeur de doudou pour les adultes. Il est vrai qu'aujourd'hui, bon nombre d'usagers sans s'en rendre compte, ils apportent leur smartphone même dans les toilettes, même dans leur voiture. Et lorsqu'ils sont en arrêt, ils envoient des textes, ils en reçoivent, ils font des films, des séquences de films, ils envoient et tout. Donc cette portabilité de la technologie ne va pas sans portabilité de notre attention et notre concentration. Donc l'induction addictogène est de plus en plus présente et de toute façon la courbe de la cyberdépendance depuis le début suit la courbe de l'équipement en informatique. Donc plus d'équipement en informatique, je dirais plus de dépendants, de même que plus de jeux, plus de paris, ainsi de suite, si vous voulez. C'est une règle simple dans l'addictologie. Plus il y a d'exposition, plus les risques augmentent.
Oui, il y a des gens qui apportent leur téléphone intelligent jusque dans leur lit et effectivement, on commence à observer, semble-t-il, des problèmes d'insomnie liés à la cyberdépendance.
Oui, parce que si vous voulez, le sommeil, c'est un mécanisme particulièrement complexe et fragile. Tout le monde va au lit et dort le soir et part du principe que c'est un acquis. En définitive, cet acquis-là, sur le plan neurologique, n'est pas si acquis que ça. Ça ne va pas de soi. Prenez l'exemple des gens qui ont des soucis bien particuliers et qui dorment de temps en temps mal et ils vont dire que j'avais une pensée dans la tête, j'ai pensé à ça et ça m'a empêché de dormir. Voyez-vous, ça c'est l'exemple de la rumination en psychopathologie. Lorsque je suis un fil de discussion dans un chat en clavardant, là je fais exactement le même traitement avec mon cerveau. Je l'empêche de dormir parce que l'état de sommeil, l'état d'endormissement, ça doit obligatoirement passer par un état de relaxation hypnotique et par la suite on peut s'endormir. Les stimuli forts comme la lumière par exemple qui se dégage des écrans de ces engins électroniques, c'est le contraire de la relaxation.
Et j'imagine que le fait de se retrouver dans des échanges, je pense notamment à ceux qui jouent à des jeux en ligne, ça doit stimuler l'esprit aussi, donc ça ne favorise pas le sommeil.
Vous ne croyez pas si bien dire, dans la mesure où il n'y a pas que l'esprit qui est stimulé, il y a également la sécrétion de l'adrénaline. Parce que notamment ces jeux-là, rarement à cette heure-là, lorsqu'on joue, on a 5 ans à minuit, à 1h du matin, on est plutôt plus grand et on joue à des jeux de guerre et de violence. Donc, si vous voulez, il y a une sécrétion d'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est une hormone de mobilisation. C'est le contraire, par exemple, de la sérotonine, qui est l'hormone de détente. Donc, à partir de là, ça devient très dur d'obtenir un bon endormissement. Ce qui fait que lorsqu'en 2005, j'ai proposé le tableau des symptômes physiologiques de la cyberdépendance, les troubles de sommeil et les perturbations du cycle de sommeil figuraient en bonne place.
Alors, j'évoquais en présentation le FOMO, le Fear of Missing Out. Vous, vous avez traduit cette expression-là par anxiété de ratage.
Oui.
Pour vous, ce n'est pas...
Ça va bien dans la définition, si vous voulez.
Oui, mais pour vous, ce n'est pas une dépendance, c'est davantage une anxiété.
Oui, parce que, si vous voulez, il y a l'école anglo-saxonne qui a pris un petit peu l'habitude, depuis toujours, de faire de tout une addiction. La réalité d'une addiction, c'est que ça doit, si vous voulez, se montrer par deux phénomènes. Le phénomène de tolérance et le phénomène de manque. Le phénomène de tolérance veut dire que je vais augmenter ma dose du produit que je prends pour avoir le même effet de la drogue. Et puis le phénomène de manque veut dire que lorsque je ne l'ai pas, je vais être irritable. D'accord ? Alors, donc la cyberdépendance, c'est une dépendance. Mais FOMO, c'est une anxiété, parce que je ne peux pas dire que si je n'ai pas assez d'anxiété, j'en redemande. Et je ne peux pas dire que je suis en manque d'anxiété lorsque je n'en ai pas. Donc c'est une erreur méthodologique. J'ai discuté pas mal avec nos amis anglo-saxons. Il y en a qui sont d'accord avec nous, mais ils disent que c'est le choix de la presse. Ils disent « FOMO addiction ». FOMO addiction, c'est une aberration. Au fait, FOMO, ou l'anxiété de ratage, est une anxiété propre à une dépendance, mais on ne peut pas confondre l'anxiété et la dépendance. L'anxiété est à l'origine de la dépendance, mais n'est pas la dépendance, de même que la farine est à l'origine du pain, mais on ne peut pas confondre la farine et le pain. Mais c'est un débat savant, ça, en tout cas.
Oui. Est-ce qu'on peut identifier soi-même les problèmes de cyberdépendance qu'on a ou les problèmes d'anxiété de ratage?
Écoutez, si on est sensibilisé à ça, si vraiment on est jeune et qu'à l'école, on a vu défiler quelques éducateurs qui nous ont parlé de ça, si on en a une idée, naturellement, on va pouvoir faire une auto-évaluation. Moi-même, j'en ai produit, mais il y en a d'autres, des grilles d'auto-évaluation. On trouve ça sur le net, on répond, on voit si on est à risque ou pas. Mais le grand problème que nous avons, nous, avec nos patients, lorsqu'ils arrivent à notre consultation, c'est qu'en définitive, ils sont dans le déni de leur propre dépendance. Et souvent, ils sont amenés par les parents, par les époux, par les épouses, par de la famille, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont souvent dans la dénégation. Il y a une exception, c'est le cas des dépendances à la cyberpornographie. Depuis quelques années, on voit des démarches spontanées. Ça fait 3-4 ans, pas avant. Alors, des démarches spontanées de la part des dépendants de cyberpornographie qui viennent spontanément demander de l'aide. Mais sinon, dans le reste des cas, c'est souvent le signal part de l'entourage. La personne, elle est trop dans l'engrenage pour s'en rendre compte.
Et c'était un plaisir de vous parler, Dr Nayebi. Ceux qui s'intéressent à vos travaux peuvent consulter votre site Internet à www.nayebi.fr. Et pour terminer, Dr Nayebi, on vous a demandé une suggestion musicale qui est un peu en lien avec le sujet dont on vient de parler. Vous avez suggéré un concerto de Vivaldi.
Oui, écoutez, je travaille souvent la nuit, je dors pas beaucoup, mais parce que j'ai du travail à faire et je trouve que la nuit est très propice à l'exercice intellectuel. Tous mes livres, mes articles, je les ai écrits la nuit. Vivaldi, c'est vraiment mon ami, mon compagnon lorsque j'écris. Alors lorsque la question m'a été posée, je n'ai pas mis longtemps à répondre. Et dans les 4 saisons de Vivaldi, naturellement, vous voyez, je me trouve à Québec. J'aime l'hiver et c'est le morceau que j'ai choisi.
Mais on l'écoute avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Dr Nayebi.
C'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.